l'épisode 59 de la French Connection. Cette semaine, nous sommes avec Damien.
Bonjour tout le monde!
Avec Vincent.
Salut!
Et un nouveau podcasteur résident avec nous autres, Guillaume.
Bonjour! Guillaume!
En espérant que ce soit une collaboration future et qui dure dans le temps. On a beaucoup de sujets cette semaine à passer à travers. On va avoir des rapports sur la cybermenace, de la vente de chatons sur Internet, des ados devant la justice pour des déni de service, un petit retour sur la RGPD qui est un sujet, je pense, continu. On va parler du cold boot par F-Secure. On va parler d'Academos, qui est une plateforme fort utile pour la relève. Microsoft développe son propre système, ou dans ce cas, publie son propre système de vulnérabilité ou explique comment il fonctionne. On est capable de copier des clés de Tesla. Et une ville paye malheureusement des éléments à un groupe criminalisé. Et on enchaîne avec les Shameless Plug. 27 septembre prochain, ISACA présente la gouvernance et la gestion des TIO gouvernement du Québec. Québec Sec, l'architecture d'entreprise avec moi-même. Fait que ça risque d'être assez comique, merci. 2-3 novembre, le Hackfest, en quel Damien, entre autres, va venir faire une présentation sur le RGPD et une panoplie de formations, et on va enregistrer un épisode live là-bas aussi d'ailleurs. Le 22-23 janvier, FIC à Lille, et auquel on va manger de la poutine. Normalement, je devrais y être, qu'on va pouvoir y faire un live également là aussi. Et Damien fait des simagrées de mangeage de poutine, fait que j'imagine qu'il est excessivement hâte au Hackfest et au FIC.
Ah bah rien que d'entendre le mot poutine, je bave.
C'est très bon. Et finalement, le 8 avril 2019, lors de la semaine numérique, il va y avoir un nouvel élément de sécurité qui s'appelle le Secure, lequel on va vous entretenir plus longuement dans des épisodes futurs. Donc, commençons avec nos nouvelles, avec un rapport sur la cybermenace. Damien?
Oui. C'est intéressant, c'est édité par GData. GData, c'est l'éditeur d'antivirus allemand, qui a expliqué que ce premier semestre 2018, ils avaient repéré 2 millions de nouveaux types de logiciels malveillants, mais c'était une tendance à la baisse. Alors moi, je me dis 2 millions et c'est à la baisse, qu'est-ce que c'était avant ? Non, ce qui est toujours intéressant, c'est que les malwares classiques, d'après ce rapport, sont en train de baisser. Ce qui est en train de prendre du terrain, eh bien, ce sont toutes ces attaques à partir des navigateurs. Alors, ils prennent par exemple l'exemple des outils pour générer de la crypto-monnaie, même si on a pu voir dernièrement que tout ce qui était ces crypto-monnaies avait chuté. D'une manière assez exponentielle depuis cette première année, hein, 80% quand même. Donc tous ceux qui avaient mis leur bille dans ces crypto-monnaies, dont les cybercriminels, à première vue, ont perdu beaucoup d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le top 10 des pays qui ont pu être les plus porteurs, on va dire, de malveillance informatique. Alors dans ce top 10, on retrouve la Turquie en tête, suivie d'Israël, du Maroc, du Portugal, de la Suède, de la Norvège, et la France, cocorico. On est huitième. Alors, il n'y a pas de quoi être fier, hein, c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le Québec et le Canada, eh bien, sont dans les tréfonds. Donc, à première vue, vous êtes super sécurisés, ou alors plus malins. Hein, c'est aussi un choix à prendre. Mais bon, voilà.
Les statistiques, ça veut dire n'importe quoi.
Oui, alors surtout qu'une statistique, surtout chez les éditeurs d'antivirus, ça provient surtout de leurs propres clients. Mais ça donne au moins une petite visibilité sur eh bien, ces attaques de masse. Et clairement, hein, encore une fois, le crypto-jacking est vraiment en tête.
Ah, il y a énormément de choses. La menace n'est pas sur le point de se terminer du tout. Mais c'est intéressant de voir la nature de ces statistiques-là. Ce serait de voir le bassin réel qui est en arrière. Puis, je ne suis pas convaincu que le Canada et le Québec est aussi loin que ça dans la file. Comme ces statistiques-là lui permettent de le déduire, disons.
Ou alors, les pirates canadiens et québécois sont peut-être beaucoup plus discrets.
Peut-être, qui sait. Puis justement, suivons avec une autre nouvelle. F-Secure parle d'un nouveau vecteur d'attaque Cold Boot.
Oui, dans ma capsule en juin cette semaine, moi, je voulais vous parler de cette nouvelle attaque qui a été apportée par les chercheurs de F-Secure. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est le retour avec une vengeance d'un vieux vecteur d'attaque qui exploite vraiment la rémanence des données dans la mémoire RAM. La mémoire RAM, pour simplifier, c'est constitué de petits condensateurs qui accumulent ou qui relâchent de charges électriques pour représenter des informations sous forme de 0 ou de 1. Donc, au cœur de l'attaque, c'est vraiment le fait que cette information-là n'est pas perdue instantanément, puis peut demeurer en mémoire lors d'un redémarrage. Dans le cas de l'attaque apportée par FCQ, c'est en fait le mode veille qui est visé, car il conserve la mémoire active lors de son état de veille. Donc, ça permettrait à un attaquant de reprendre contrôle de la mémoire RAM qui ne se perd pas instantanément. Pour dire que ce n'est pas une attaque qui est nouvelle. Dans le passé, on a vu ce type d'attaque-là sur les ordinateurs, à savoir que, bon, avec des attaques comme le RAM freeze et compagnie, la mémoire persistait au travers des redémarrages. On a aussi vu ça chez les mobiles, avec notamment l'attaque Frost, la Forensic Recovery of Scrambled Telephones, qui consistait à placer un mobile une heure dans un congélateur à moins 15 pour augmenter le temps de rétention des données. Après coup, on pouvait extraire le contenu de la mémoire avec des outils d'extraction spécialisés. Donc, qu'est-ce que ça donne au juste? Ben, la mémoire centrale est pleine d'informations qui sont pratiquement des véritables trésors. On parle notamment des mots de passe, des morceaux de fichiers ou même des clés d'encryption qui peuvent servir aux différents processus de l'ordinateur. Donc, en gros, c'est un gros festin de données à l'état brut qui peuvent donner accès à une foule de choses intéressantes pour un intrus, comme des clés de signature, d'accès à des réseaux VPN, accès à des fichiers encryptés ou d'autres données protégées. Donc, tout ce qu'il faut pour un attaquant pour exploiter ça, c'est vraiment de mettre la main sur un ordinateur en mode veille. Ça permet, avec des outils relativement simples, ça permet d'aller chercher les données en mémoire. Du côté de défense, la mitigation de ça est vraiment pas simple. Il n'existe pas actuellement de solution simple du côté des manufacturiers qui, eux, veulent garder la fonctionnalité de retour rapide au travail intact. Donc, une des solutions qui aurait pu être mise en place, c'est par exemple de réécrire la mémoire avec des données bidons lorsqu'on met en mode veille quelque chose. Mais pour conserver la facilité d'utilisation, les manufacturiers ne sont pas vraiment enclins à implémenter ce genre de solution-là. Donc, la solution pour monsieur et madame tout le monde pour éviter d'être vulnérable, c'est un peu du gros bon sens, comme une fois, c'est vraiment de bien fermer son ordinateur lorsqu'on le laisse sans surveillance. Donc, c'est pas mal ça pour l'attaque cold boot de FCQ cette semaine.
Oui, et bien, dans le fond, dans la chose, puis je vais revenir sur cet élément-là plus tard, c'est la facilité de l'attaque, elle est vraiment accessible à, disons, son qualifié, disons, comme un étudiant en informatique ou vraiment un expert super crack en crypto?
Je vous dirais que c'est toujours un peu le même problème, à savoir que, bon... Pour développer un outil d'attaque, ça demande quand même des bonnes connaissances. Pour utiliser un outil d'attaque, ça ne demande pas grand-chose. Donc, c'est un peu cette asymétrie-là au niveau de la disponibilité des moyens qui fait que ça peut être accessible vraiment au commun.
Donc, c'est d'autant plus important là, ce qu'on appelait à l'époque, je pense, le mail-in attack, c'est-à-dire que c'est la femme de ménage qui vient dans la chambre d'hôtel qui a la capacité d'arriver rapidement puis de partir avec le contenu de ton laptop parce que elle t'a vu quitter la chambre, fait que dans le délai raisonnable qui permet, elle va être capable de venir chercher le...
Patrick en parlait hein, lors de la DEFCON, hein, oui. Les gens qui ont visité les hôtels, les chambres et potentiellement l'informatique, une dame de service, une femme de ménage quelque peu entraînée à être rapide pour viser la bécane, l'ordinateur avait tout à fait potentialité de mettre la main sur le reste des données, hein.
Tu n'avais pas reçu, Nicolas, au Hackfest, il y a 2, 3 ou 4 ans, justement, une compagnie qui avait des contrats avec le département de la défense américaine pour le chiffrement, où des étudiants avaient justement utilisé la méthode. Ils avaient retiré les puces de mémoire puis ils avaient congelé pour ensuite de ça, pour retenir le plus d'informations, puis ils avaient réussi à récupérer les clés qui permettaient de déchiffrer le contenu, ce qui avait réveillé justement le secrétaire à la défense puis le président de la compagnie. Pour dire, hey, reproduisez-moi ça, parce que si c'est vrai, on change le système. Là. Te souviens-tu de ça?
Moi, j'ai pas assisté à cette conférence-là, mais c'est un peu ce que Guillaume disait, c'est qu'effectivement, le mettre dans le congélateur vient allonger le temps de rétention de la mémoire parce que la demi-vie du contenu est allongée et justement amène le problème du fait que tu es capable d'aller chercher tout le contenu ou en tout cas plus de contenu, donc toutes les clés de chiffrement, les mots de passe, tout ce qui reste en mémoire, parce que le fonctionnement même du chiffrement doit exiger que ça soit disponible. Fait que c'est terrible. Ce qui fait que si tu vas dans une chambre d'hôtel puis tu veux te faire un lien dans l'ensemble, faut que tu t'assures que tu wipes toute ta mémoire avant quand tu le fermes. Puis il y a des fonctionnalités disponibles dans certains OS pour le faire. Mais encore là, quand tu le fermes, il va se mettre même en mode hibernation. Fait que c'est encore pire parce qu'il maintient en mémoire le contenu pendant un temps. Fait que tous les portables modernes vont juste maintenir vivant la mémoire, justement, pour que la personne qui rentre, pouf, va pouvoir aller chercher plus loin le contenu. Là. C'est assez terrible, mais c'est probablement comme les problèmes avec Intel, Spec Meltdown. Les fabricants ne sont pas très enclins à vouloir régler le problème, ce que Guillaume disait. Là. Puis je pense que ça repose sur l'utilisateur de vouloir faire ça.
Oui, puis ça soulève tout aussi le problème que la problématique plus large du hardware propriétaire, à savoir qu'on hérite directement de cette boîte noire-là qui n'est pas auditable en profondeur. Donc, tu parlais de Spec, Meltdown et compagnie. On retrouve au niveau du hardware les mêmes problématiques qu'on retrouvait au tournant des années 90-2000, ce qu'on retrouvait au niveau du software. Et une des grosses problématiques qu'il y a en ce moment, mais qui est aussi une épée de retranchant, qui est un outil fantastique, c'est que les moyens hardware deviennent de plus en plus accessibles aux communs des mortels. Donc, avant, il y avait une certaine sécurité dans l'obscurité qui existait au niveau du hardware et c'est en train de fondre complètement parce que c'est de plus en plus accessible. On en parlait tantôt avec les clés Tesla. On retrouve la même chose au niveau des signaux radio. On en parlait tout à l'heure. Mais bref, on hérite de ce problème-là du fait qu'il n'y a aucune incitative pour les manufacturiers à fournir des plateformes hardware qui sont auditables au public pour des raisons de propriété intellectuelle. Donc, c'est un problème qui s'ouvre vers d'autres problèmes.
Effectivement, puis comme tu fais le pont, d'ailleurs, j'ai amorcé avec la nouvelle sur Tesla, sur laquelle, effectivement, il a été découvert que c'était relativement facile à copier. Et là, relativement, il faut mettre beaucoup de bémols parce que les chercheurs ont tendance à s'énerver très vite puis à dire « Oh, c'est vulnérable, c'est vulnérable », mais ça te prend 5 000 $ d'équipement pour réussir à faire la copie en question. C'est peut-être pas nécessairement à la portée de tout le monde. Fait que, ça dépend de la nature de la menace que tu as. Fait que le voleur de véhicule par opportunité n'a pas cet argent-là pour faire ça. Par contre, le crime organisé ou les banques criminelles ont plus d'accès à ce genre de capacité-là maintenant. Là. Et de plus en plus, le Damien va pouvoir corroborer parce qu'il traîne un peu dans ces milieux de filous dans lesquels on est capable de voir ça. Mais autres ont les moyens, puis maintenant, ils commencent à s'intéresser à ça parce que l'argent est rendu là, puis c'est encore plus facile.
Il y a de l'argent. C'est exactement ça, Nicolas. Il y a de l'argent. Donc, comme il y a de l'argent qui encore plus simple à collecter, ils vont certainement pas se gêner, donc investir.
Entre autres, puis c'est beaucoup plus sécuritaire de faire un vol informatique que de faire un vol à point de fusil dans une banque. Entre les deux, c'est clair que les gens ne sont moins intéressés parce qu'il y a moins de risques de se faire tirer, moins de risques de se faire attraper, moins de risques de tout. Donc, c'est sûr que le crime organisé a vite, vite l'opportunité que tu peux faire ça, en plus que les gens sont malheureusement encore tellement peu éduqués face à ces menaces-là qui se font enrouler là, de façon phénoménale. Là. Mais dans le cas de Tesla, par exemple, l'accessibilité de l'outil n'est pas très facile. C'est sûr que l'académique qui l'a sorti, puis là, il rend le... Puis il y a aussi l'éthique du fait de rendre disponible des outils comme ça aussi facilement que ça au plus grand nombre. Là. Puis c'est un peu ce que Guillaume disait pour le cold boot. Ça, c'est de mettre des outils très... C'est de donner une arme automatique dans les mains d'un enfant de 12 ans. Socialement, il faudrait se poser des questions puis arrêter de se cacher sous le voile de « oui, c'est de la recherche académique ». C'est pas parce que c'est une recherche académique que tu as mis une arme de semi-automatique ou automatique dans les mains de quelqu'un qui va tuer tout le monde que c'est légitime de faire ça comme ça. Là. Et... Passons à la nouvelle suivante.
En fait, j'aimerais revenir un petit point ici sur la facilité de cloner ces genres de technologies-là. Bon, petit moment de shameless plug. Si vous allez voir sur mon blog, on a fait l'expérience avec des technologies qui sont quand même très répandues au niveau des key fobs qu'on fait universels, qui utilisent par exemple des ciphers comme le cipher KeyLock et compagnie. Le montant d'efforts requis pour exploiter ces failles-là est vraiment minime. Bon, on parle d'un académique ici qui utilise la plateforme Ethos Research, qui, oui, coûte plusieurs milliers de dollars, mais il existe des alternatives open source, par exemple le HackRM de Michael Osman, qui vaut à peu près 300 $. On parle quand même d'une économie de facteur de presque 10, donc c'est quand même de plus en plus accessible. Je voudrais même qu'au niveau des radios logicielles qui existent, que ce soit du SDR ou du HackRM, c'est extrêmement accessible. On parle d'une programmation qui se fait, avec, par exemple, si vous avez déjà utilisé Kino Radio, qui se fait avec des outils drag and drop qui sont relativement simples. Donc, ça permet vraiment d'exploiter ces genres de failles hardware qui sont maintenues.
Je dirais pas que le drag and drop, là, mais parce que pour avoir plusieurs de ces cartes-là moi-même, puis m'amuser beaucoup dans ces choses-là, il y a un certain seuil de complexité.
Oui, ça prend quand même des compétences en DSP là, pour être capable de bien agencer les blocs et bien les connecter entre eux. Mais on parle quand même, c'est très loin là, des compétences hardware qui étaient requises jadis pour accéder à ce genre de signaux-là et ce genre de processus-là là, pour réenvoyer des signaux radio là, via des.
Oui, ben, tout à fait. Ça demande plus une connaissance matérielle comme ça l'était il y a plusieurs années en arrière. Là. Puis ça permet de l'accessibilité, donc pour moi, d'accéder à ce genre de choses-là que je n'ai pas nécessairement la compétence matérielle pour le faire, mais j'ai la compétence logicielle pour l'opérer. Fait que oui, on a fait ce genre de choses-là. Puis d'ailleurs, on va rajouter dans les show notes un lien vers cet article de blog-là pour que les gens puissent aller creuser davantage cette information-là. C'est super intéressant. Et on va aller à la nouvelle suivante, qui est une ville aux États-Unis paye malheureusement une rançon.
Non, c'est pas aux États-Unis, c'est en Ontario.
Oups!
C'est pas grave. Oui, c'est au début de l'année. Ça s'est passé à l'aube du 1er septembre dernier, pendant la fin de semaine de la fête du travail. C'est la municipalité de Midland, sur la baie georgienne. Bon, elle a acquitté une rançon, justement, des pirates qui avaient paralysé son système, qui est arrivé le premier. Pendant 48 heures, tous les ordinateurs de la ville étaient inutilisables. Les citoyens pouvaient faire que des paiements en argent comptant, faute de terminaux de paiement fonctionnels. Bon, là, j'ai pas regardé toute l'étendue des types de paiements, mais il doit y avoir des contraventions, peut-être des systèmes de stationnement plus... avec application mobile, bon, etc., etc. Ça a dû causer plusieurs maux de tête. Son réseau a été pris en otage lorsque des employés ont découvert qu'un virus avait contaminé l'ensemble des ordinateurs de la petite municipalité de 17 000 habitants. On ignore l'identité des auteurs de l'attaque, mais la ville précise qu'ils lui ont offert de déverrouiller l'accès à son réseau grâce à un numéro crypté moyennant une rançon. C'était une attaque, paraîtrait-il, ciblée. J'ai un doute. Une petite municipalité comme ça, c'est... En fait, c'est ciblé. Mon opinion, c'est plutôt que c'était pour faire du mal ou pour peut-être... C'était peut-être un laboratoire pour eux autres pour cibler des municipalités plus sophistiquées. Là. Mais bon, on dit avant l'aube du 1er septembre, au début du long week-end, ces assureurs, en fait, ont payé la facture en vertu d'une police d'assurance. Oui, il y a des assurances pour ça, ce qui est bien, en fait. Et puis, le maire, Gord McKay, dit que la seule compagnie d'assurance connaît le montant de la rançon, fait que le montant n'a pas été dévoilé, on ne sait pas c'est combien. Par contre, M. McKay, le maire, ne connaît pas la raison pour laquelle sa ville en particulier a fait l'objet d'une telle fraude. Bon, les attaques deviennent de plus en plus fréquentes. Bon, certains fraudeurs font même un fonds de commerce pour rançonner les usagers, puisque toutes les transactions se font maintenant sur Internet.
Ouais, ben je pense pas que de toute façon, il était pas ciblé. Là. Je pense qu'il y a de l'argent, le monde sont passés, ils l'ont ramassé, puis sont partis. Là. Je pense que c'est gourd à réclamer 200$.
Selon moi, c'est ça. La petite municipalité a été ciblée comme étant une cible, une proie facile, en fait, qui. En fait, tout le réseau, toute l'infrastructure technologique de la municipalité a été paralysée. Je ne sais pas combien ils ont demandé. Si les assureurs ont payé. Écoutez, pauvre eux autres, mais bon, ils se sont fait avoir.
Ce qui est inquiétant, c'est que les assureurs maintenant proposent de rembourser ou en tout cas de payer les rançons. Ça veut dire que les rançonneurs, hein, ces créateurs de logiciels, vont se dire maintenant les entreprises, elles font des sauvegardes ou pas, dans tous les cas, elles sont assurées, donc elles payeront. Ça va faciliter encore plus ce genre d'attaque. C'est vraiment, vraiment inquiétant. Hein.
Oui, tu as tout à fait raison. Il y a eu deux, trois articles. J'ai juste pris le dernier sur celui-là, là, la conclusion de cette aventure-là. Ce qui a été comique, c'est qu'il y a un des articles, la municipalité, en fait, avait ouvert une enquête et puis il s'acharnait à trouver quel était l'employé qui avait appuyé sur le bouton. C'est encore drôle la façon dont c'était écrit. On veut trouver la cause racine pour pouvoir remonter la chaîne, si c'est possible. Mais la façon dont c'était écrit, c'est comme si on voulait s'acharner puis taper sur le clou qui a pesé sur le piton.
Ouais.
C'était écrit de façon... c'était négatif, c'était néfaste. Là. C'était, on s'en fout, c'était compliqué.
Je suis d'accord, effectivement, que c'est néfaste parce qu'on n'avait pas commencé à toujours frapper sur l'utilisateur pour ça parce que tu sais, c'est pas la bonne façon et on n'arrivera à rien si on fait ça. Là. Comme tu dis, c'est toxique, c'est néfaste.
Ouais. C'est l'éducation, la formation qui aidera. C'est pas la peine de taper sur celui qui a cliqué sur cette fausse facture qui lui est arrivée le lundi alors qu'il rentrait en vacances. Ouais. Si on l'avait formé un petit peu avant en posant des bonnes questions, ce genre de problème n'arriverait plus.
Ouais, t'as raison, tout à fait. C'est terminé, les amis.
Je trouve que ça soulève quand même des problèmes intéressants au niveau de du dilemme que l'entreprise ciblée a, à savoir entre payer ou ne pas payer. On soulève le problème que oui, bon, ils ont payé, donc ça ouvre la porte à cette attente-là dans le futur que les entreprises vont payer. Mais de l'autre côté, de la perspective de l'entreprise, ça, parce que j'ai justement eu un fournisseur d'accès Internet qui m'a contacté récemment, qui était victime de ce genre d'attaque-là. On parle, c'était quand même solide, on parlait d'une vingtaine de serveurs là, critiques qui ont été touchés par une attaque là, persistante. Et donc, ils se sont fait infiltrer lentement et finalement, un jour, ils ont décidé de barrer la clé, de barrer le tout et de jeter la clé. Et donc, vraiment, l'entreprise, on parle de fournisseur d'accès Internet ici, donc quelqu'un dont, pour qui la disponibilité des serveurs est absolument critique. Il y avait quand même un certain incitatif ici à payer et je pense que ça aurait été peut-être même dans leur intérêt de faire. Maintenant, reste à savoir est-ce que de l'autre côté de la clôture, est-ce que vraiment une culture d'honnêteté du côté des pirates, à savoir si tu payes, on te débarre exactement. Donc, il y en a qui font tout simplement partir avec l'argent et ne pas débarrer. Donc, ça permet un petit peu aux autres là, de douter un petit peu des résultats qu'ils peuvent s'attendre si jamais ils payent. Donc, c'est quand même un dilemme intéressant là, de ce côté-là.
Je ne veux pas taper sur les entreprises, hein, mais j'en ai un petit peu ras-le-bol de toutes ces sociétés qui font « Oh là là, quel est le coupable, la secrétaire, mes employés qui ont cliqué ?» Eh les gars, vous n'auriez pas de problème si en plus vous aviez des sauvegardes. Une sauvegarde, des outils de sauvegarde, ça coûte tellement moins cher qu'un ransomware, croyez-moi.
Oui, entièrement d'accord. Effectivement, mais en même temps, tout dépendant là, c'est des petites sociétés, oui, mais quand on parle de grandes sociétés, le coût de restauration des backups, des fois, est même plus dispendieux que le paiement de la rançon. On est tout dans une espèce de logique financière qui est, disons, particulière.
Mais encore là, l'architecture des systèmes de backup fait que pour un attaquant qui a accès au réseau interne et donc qui a accès au système de backup lui aussi, rend ça beaucoup plus difficile. Donc, là, on parle vraiment de backup avec des air gaps et des choses ouais. comme ça qui pourraient. Donc,
tu fais vraiment référence à un attaquant vraiment motivé qui fait ça sur très longtemps, parce que la plupart des cas, c'est des hit and run, ils rentrent, ils skippent, oui. ils s'en vont. Mais effectivement, dans un cas plus complexe comme le tien, ils sont foutus. Ils ne peuvent rien faire.
Ben, ils fonctionnent maintenant, mais je peux te dire que leurs techniciens ont passé beaucoup, beaucoup de nuits blanches.
Ouais, ils ont perdu sa fin de semaine parce qu'ils ont dû faire ça une bonne blague le vendredi en fin de journée juste pour emmerder tout le monde. C'est généralement la classique. Passons à la nouvelle suivante, des chatons sur les internets pour piéger des gens.
Alors les gars, ça vous dit un petit vidéo? Je vous ai trouvé une petite arnaque qui est plutôt efficace, malheureusement. Tout a commencé, en fait, c'est des contacts qui m'ont alerté en me disant, ben voilà, mes parents, mes grands-parents ont voulu récupérer un chat qui était offert. Hein. Il existe énormément de sites de petites annonces. Et du coup, ça offrait des chatons. Et ses parents ont accepté de rentrer en transaction avec ce qui semblait être des gens honnêtes. Ça a commencé à discuter, ils ont reçu des photos. Et puis, à un moment, cet offreur, explique qu'il va falloir payer un transporteur pour amener Minou d'un endroit à un autre. Et ils ont reçu ses parents ont reçu un lien amenant une société de transport. Donc tout ça paraissait propre, d'autant plus qu'on leur demandait, par exemple, une centaine de dollars pour pouvoir transporter le chat dans une jolie caisse et que cet argent allait être remboursé parce que c'était une espèce de moyen de s'assurer qu'il n'y avait pas escroquerie du côté de celui qui voulait récupérer le chat. Sauf que de fil en aiguille, les gens ont payé. Et on va dire, dans l'heure qui a suivi, un second mail est arrivé où on leur a expliqué « Oh là là, on ne peut pas vous envoyer le chat, il n'a pas été vacciné. » Et donc, du coup, les escrocs ont réclamé 300 dollars supplémentaires. Donc, du coup, le chat gratuit passait à 400 €. Ça commence à faire très cher le minou, hein, je vais être très clair avec vous, la grosse bonne grosse arnaque. Les gens n'ont pas payé, mais la boutique, il y a de fortes chances qu'elle fonctionne de feu de Dieu. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que pendant mon enquête qui a duré 5 jours, sur 10 cas de chats donnés et de chiens, 6 étaient des escroqueries. 6 étaient tenus par la même personne. Sur les 10 petites annonces, je suis passé par 5 sites différents. Ça prouve qu'il y a un véritable business derrière et que ça se protège et ça se sécurise ce genre de transaction. D'abord, on alerte ses parents, ses grands-parents, un moyen de leur expliquer un petit peu comment fonctionnent les internets. Et du coup, ça rapproche l'humain. J'adore dire que l'informatique et la cybersécurité, c'est l'humain d'abord. Ensuite, si on vous envoie de sublimes photos, dites-vous que on peut les contrôler, ces photos. Juste en prenant Google Images, vous prenez l'image que vous avez reçue, vous le mettez dans Google Images, il vous dira partout où Minou apparaît. Et si vous voyez 50 fois Minou avec des différents noms, là c'est simple, hein, l'un des arnaqueurs, ça fait 2 ans qu'il essaye de donner Minou. Hein, comme je le disais, le Minou c'est Nien maintenant, hein, le truc qui fait 50 kilos, ça doit être un monstre. Mais voilà, j'essaye d'en rigoler un petit peu, mais malheureusement l'arnaque est vraiment très 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 efficace et elle vise surtout les personnes les plus fragiles. Et je pense que notre mission à nous tous, on est avant tout des cyber-citoyens, c'est d'alerter.
Ah, tout à fait. Puis c'est malheureusement, c'est ça, justement, ça vise les personnes qui sont démunies au niveau de la cyberconnaissance, qui ont un peu de facilité avec ça. Et justement, sont d'autant plus faciles à faire croire que ces choses-là sont vraies. C'est triste. Le Minou doit être effectivement c'est une belle attrape de.
Mais ils sont super efficaces. Hein. Ils envoient une fausse facture. On arrive bien sur un site de transport qu'ils ont créé, dans lequel, une fois. Comme les gens ont donné leur adresse, ils indiquent bien, voilà, notre transporteur arrivera à cette adresse, ils montrent la photo du lieu où le chat doit être livré. Juste pour info, pour se faire payer, c'est pas par carte bancaire, c'est plus par Western Union, c'est pas par PayPal, mais par des cartes de prépaiement. Ici, en France, on peut acheter dans les bureaux de tabac. Vous donnez 250 €, par exemple, au buraliste, et il vous fabrique une carte avec les 16 chiffres que là, vous pouvez fournir avec de véritables achats. Mais c'est ce que récupèrent les malveillants. Et donc, du coup, une fois qu'ils ont ce numéro de carte, eh bien, voilà, ça fonctionne bien, quoi.
Oui, effectivement, c'est une façon d'enlever la traçabilité de toute la transaction dans ce qui se passe.
Ça, c'est comme un chat de 50 kilos, c'est comme ton ours, gros comme un bungalow.
Ouais, avec des griffes de 2 pieds de long, puis gros comme un auto. Gros comme un cabanon. Effectivement. On va passer à la nouvelle suivante. Microsoft vient de publier sur sa façon de classifier les vulnérabilités. C'est une approche, c'est intéressant de voir comment les autres fonctionnent, comment ils abordent cette situation. Par contre, ce qui est un peu déplorable, c'est qu'ils sont passés à côté des standards, CVSS, qui est une façon de classifier uniforme les vulnérabilités. Donc, c'est un casse-tête supplémentaire, mais je lève mon chapeau à tout l'effort de communication qui est associé avec ça pour Microsoft. Et passons aussi à la nouvelle suivante. Un ado, déni de service devant la justice.
Oui, alors les déni of service, hein, les DDoS, c'est devenu une espèce de sport olympique pour certaines populations. D'abord des professionnels qui proposent des stuesseurs, hein, des sites internet dédiés pour soi-disant tester la capacité de ces machines à résister à un raz-de-marée, un tsunami de données. Et ils offrent des échantillons comme ça sur internet, à droite à gauche, qui sont souvent récupérés par des adolescents. Et là, ça vient de tomber tout doucement, au fur et à mesure. Là, on a un jeune Britannique hein, qui a été arrêté il y a 2 mois, qui est en cours de jugement. On a en ce moment un jeune Français aussi qui sera jugé en janvier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, pour le jeune Britannique, eh bien, c'est simple. Hein, le gars a commencé à attaquer tout ce qui bougeait, d'abord des aéroports dans son pays. Il a aussi attaqué ProtonMail. Alors, pourquoi a-t-il attaqué ProtonMail? Parce que c'est une société de sécurité informatique et si je l'ai fait tomber, je suis un bon. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit. On a tous été ados, je suis tout à fait d'accord. Sauf que nous, quand on faisait les andouilles éventuellement sur nos voléos, voilà, on finissait pas en prison. Le gamin, il a 19 ans, même s'il a 19 ans, on devrait normalement avoir un petit peu de jugeote, hein, comme on dit par chez nous. Sauf que là, aujourd'hui, il est jugé, il risque une sérieuse amende et quasiment, voire de la prison. Voilà, ils ont tous voulu reproduire ce qu'avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez du groupe Lizard Squad qui avait tapé Sony, Microsoft en période de Noël, hein, c'est une excellente idée de bloquer des grands groupes de jeux vidéo en période de Noël pour les geeks qui jouent comme moi, ne pas pouvoir jouer à Noël, c'est limite si on ne veut pas flinguer le Père Noël, hein. Mais toujours est-il que voilà, et le problème c'est que les mômes ils ont ça en main et pour rappel, ce jeune Britannique il s'était amusé aussi à appeler en mode swatting, des écoles aux États-Unis. Il y en a même une qui avait été évacuée. 400 gamins évacués parce qu'il avait fait une fausse alerte à la bombe. Et je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de ce vol, c'était le UA-498, si je ne me trompe pas. Bref, c'était un avion qui avait atterri à San Francisco, c'était au mois d'août 2018. Et bien, tous les passagers avaient été fouillés parce que le gamin avait trouvé le moyen aussi d'appeler en disant « je crois qu'il y a un passager à une bombe ». Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le numérique leur permet de faire des bêtises plus grosses qu'eux. Et aujourd'hui, il se retrouve devant le tribunal. Là, j'ai rencontré par Internet un jeune Français qui a passé devant le tribunal de grande instance à Paris. C'est mi-janvier. Et ben, il va être condamné pourquoi ? Et surtout, il va être jugé, pardon, hein, parce qu'il a lancé des DDoS contre des ministères parce qu'il voulait manifester. Alors, c'est super compliqué parce que la manifestation, bon, il va être très clair avec vous, en France, c'est quelque chose qui est quand même rentré dans les mœurs. Bloquer une route, bloquer une maison, bloquer une entreprise pour dire « stop, on arrête », ça se fait facilement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles générations se disent « mais manifester par Internet, on veut le faire nous aussi ». Et ils utilisent le DDoS. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben voilà, ils se retrouvent avec la justice sur le dos. Autant dire que les parents apprécient pas trop l'humour quand le jeune homme est mineur, hein, parce qu'il faut savoir qu'en France, c'est du pénal, et les parents sont responsables pénalement, donc savoir que peut-être que papa, maman va être obligé de revendre la maison parce qu'il va falloir payer une amende, voilà. Alors, on a tous été ados, je le comprends, mais il y a un moment, il faut aussi réfléchir à ce genre d'attaque. Parce que celui que j'ai eu, là, dernièrement, il me disait « Ah, je regrette ». Ouais, mais on ne regrette pas avant. On ne regrette pas pendant, mais on regrette après. Mais après, il est trop tard.
Ah ouais, complètement. Là, c'est du grand n'importe quoi en soi. Là, c'est l'excuse classique. « Ah non, je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas voulu frapper, mais mon point a décoché, puis oups ». Non, ça fonctionne.
C'est tellement facile. Les DDoS, aujourd'hui, j'ai un nombre de boutiques sur les internets qui offrent des échantillons de « Ah ben voilà, je t'offre 160 secondes d'un DDoS, vas-y, utilise-le, tu vas voir, c'est rigolo. » Mais attention, hein, tu l'utilises sur ta machine, pas sur la machine des autres. Et bien sûr, il n'y a que qui croit au Père Noël encore. Hein.
Tout à fait, mais tu amènes un aspect intéressant parce que je n'avais jamais abordé sous cet angle-là sur le fait de la manifestation. Puis ça m'intéresse, est-ce qu'il y a eu un potentiel là-dessus ou c'est va être complètement tassé du revers de la main?
Il y a un vrai potentiel parce qu'à la base, souvenons-nous des Anonymous qui avaient lancé des DDoS pour manifester. Aujourd'hui, des gens, je ne sais pas moi, un syndicaliste en France, il va dans la rue, il met des banderoles, il bloque la route, il met des pneus, il met le feu, il bloque l'entreprise, il met des chaînes, il bloque les camions, il bloque les stations-service pour dire « je ne suis pas d'accord pour la politique, pour l'économie, pour l'emploi, etc. » Aujourd'hui, on a aussi des populations qui se disent « mais moi, je veux aussi manifester derrière mon écran, dans mon canapé. » C'est souvent des gens qui ne vont pas manifester dans la rue, hein, qui font ce genre d'acte, mais ils veulent manifester. Et ils se disent, tiens, comment je peux pouvoir le faire? Le dire sur les forums, on va m'effacer. Aller sur Facebook, Twitter, personne ne lit si je ne mets pas un chat. Donc du coup, ils se disent, tiens, un outil, des DOS, ah tiens, en plus, on m'offre le moyen de le faire. Oh, ben, je suis un génie de l'informatique, je clique. Oui, je clique et c'est des claques. Hein.
Ben, ils vont le mettre en prison, ça va leur couper l'herbe sous le pied. On ne manifeste pas de cette façon-là, là. Ça va juste envoyer un message. Bon, en fait. ça va envoyer un message, peut-être éphémère, mais ça va en prendre plusieurs probablement pour...
Ça soulève quand même la question au niveau de la sévérité des peines, au niveau du code criminel, à savoir que, bon, comme tu dis, tu soulèves l'exemple d'Anonymous qui utilisait la plateforme Low Orbit Ion Cannon, le fameux Loïc, avec n'importe qui, avec un lien, pouvait, comme tu dis, cliquer sur un bouton et prendre part à une attaque de DOS organisée pour des milliers de personnes. Des jeunes qui se ramassent devant les tribunaux et on s'attend là, les juges, les procureurs et les policiers ne comprennent absolument rien à l'informatique. Eux autres, tout ce qu'ils voient, c'est vraiment des gens qui opèrent des systèmes qu'eux autres ne comprennent pas, mais dont leur vie en dépend. Donc c'est une sévérité qui est très souvent disproportionnée par rapport à l'acte. Par exemple, ici, le code criminel pour un déni de service, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison quand même, pour un seul, par événement. Si on cumule ça, ça donne des peines qui peuvent être astronomiques. Il y a un exemple qui est assez flagrant là-dedans, un chercheur qui avait démontré via une vulnérabilité dans les routeurs Cisco, qui avait mappé, entre guillemets, l'Internet, à savoir, bon, avec un trace route, on va faire répondre. Absolument rien d'inoffensif, mais le fait d'avoir généré autant de trafic le classifiait comme une attaque, potentiellement une attaque de déni de service. Et le mec a fait face à des accusations qui auraient pu lui rendre des milliers d'années en prison. Donc, comprendre pour quelque chose qui est absolument anodin. Donc, je pense que ça soulève quand même une question sur l'encadrement légal autour de ce genre de délit-là. Est-ce qu'il y a vraiment lieu de donner des peines aussi sévères pour ça?
C'est compliqué, parce que j'ai énormément, moi, de cas aussi où ça lance des DDoS, et puis après ils disent « Ah ben non, c'était juste pour manifester », alors que j'ai beaucoup d'utilisateurs qui font ça juste parce que c'est « fun », entre guillemets. Je prends exemple aussi de tous ces sites qui tombent tout doucement avec les autorités, on mettra le lien sur le site du podcast, mais WebSwisser, qui avait été arrêté par le FBI et par d'innombrables autorités, parce que c'était utilisé comme une espèce de boulangerie dans laquelle on pouvait prendre son petit pain et puis commencer à attaquer tout ce qui bougeait. Les autorités évoluent, mais les cybercriminels aussi évoluent. Et au milieu, on a l'utilisateur lambda XY qui se dit « Ah, c'est rigolo, ah, je vais manifester ». Il ne faut pas oublier, on le dit souvent, hein, nul n'est censé ignorer la loi. Ok, tu veux faire un DDoS, mais dis-toi, est-ce que tu vas viser véritablement la bonne personne? Est-ce que ton message va vraiment passer? Et va expliquer à un juge ensuite qu'il y a eu 10 personnes avant toi, qu'il y en aura 15 après, que toi tu faisais ça juste parce que tu voulais lever ton petit poids numérique.
Oui, puis il faut aussi regarder, puis là toi tu fais une référence au code français, puis Guillaume faisait une référence au code pénal canadien qui sont pas tout à fait de la même nature parce que au Canada, on est plus proche pour le pénal du monde, on est plus proche du système britannique que le système français. Il y a juste au Québec qu'on a hérité du code civil à la française. Pour moi, qui connais peu le système légal français, en quoi l'effet sur l'individu en question, puis dans le fond, tu fais un peu de référence à la désobéissance civile qui, au Canada, peut aller moisir en prison, tout dépendant de ce que tu fais, mais il y a un certain degré de tolérance qui est accepté quand même.
Ben, la tolérance, elle est très compliquée pour la justice. Hein. Nous, par exemple, en France, on a différentes lois, dont la loi Godefrin, qui rappelle le maintien dans un système informatisé, la perturbation de ce système et un DDoS. C'est le principe d'un énorme camion poubelle qui vient déverser devant les fenêtres et les portes d'une entreprise et plus personne ne peut rentrer, ne peut en sortir. Et donc, du coup, si c'est une boutique, par exemple, ou un ministère ou un site internet, on ne peut plus envoyer de mail, on ne peut plus recevoir, on ne peut plus agir. Donc la justice considère, alors est-ce que c'est à juste titre, on n'a pas décidé de ce que fait et dit la justice, mais en tout cas, ça perturbe. Donc c'est jugé sur ça, et comme c'est un acte délictueux et malveillant, ça peut entraîner de la prison, 3, 5 ans de prison, avec les amendes qui peuvent aller autour, sachant qu'en plus, il peut très bien y avoir ce qu'on appelle en justice des incidences. Rarement quelqu'un qui lance des DDoS ne fait pas que ça, hein, soyons très honnêtes, une personne qui va chercher stresseur sur Internet et qui va comprendre comment ça fonctionne et qui va se dire, tiens, c'est quoi le carding?
oh là là, le swatting, etc., etc. Il y a souvent des incidences tout autour de ce genre de l'espèce de couteau suisse de la malveillance qui sont du clé en main pour des personnes qui n'y comprennent strictement rien. Et qu'on le veuille ou non, ils sont malheureusement cette espèce de grosse majorité de délinquance numérique qui pourrait particulièrement être, pas disparaître, ça ne disparaîtra jamais, mais qui pourrait être au moins atténué juste par de l'éducation, juste pour de la compréhension en disant « est-ce que ça vaut vraiment le coup de cliquer ?» Bon alors après, moi je suis un utopiste depuis plusieurs années, hein, je sais que ça ne sera jamais possible, mais bon, comme je crois encore au Père Noël… Hein,
tout est possible, mais effectivement, ça, c'est un énorme effort de formation qu'il faut faire. Puis ça fait un excellent lien avec ma prochaine, c'est pas nécessairement une nouvelle, mais c'est une plateforme que j'ai découvert récemment qui s'appelle Academos, qui est disponible malheureusement présentement que pour qu'au Québec. Et des rumeurs m'ont dit que ça allait atterrir en France éventuellement. C'est une façon pour des jeunes de 14 à 30 ans, ok, 30 ans étant pas nécessairement jeune, mais c'est de 14 à 30 ans, de se mettre en contact avec des personnes qui sont dans des domaines professionnels, des mentors qui peuvent les aider à guider dans leur réflexion professionnelle future. Et considérant que nous, en sécurité, on est en understaff, on est vraiment en manque de personnel de façon grave, c'est une belle façon, une belle plateforme pour utiliser, pour aider à inciter les jeunes à adhérer à ce chemin de carrière qui…
C'est génial comme idée.
Oui.
C'est génial. Parce que même en informatique, on peut comprendre les parents qui se disent « Oh, mes enfants sont pas dehors parce que dehors, il y a des criminels partout, on va les mettre devant l'ordinateur et ils vont avoir un métier. » Oui, sauf que il y a aussi des criminels sur Internet. Mais bon, il faut pas tomber dans cette paranoïa. Et donc, du coup, s'ils peuvent avoir des mentors, mais peu importe, un webmaster, en tout cas tout ce qui tourne autour de l'informatique, dont la cybersécurité, c'est génial.
Ça en fait partie. Je trouve ça très intéressant. Les liens vont dans le show notes pour tous ceux qui veulent, du moins au Québec pour l'instant, puis quand ça va être en France ou en Europe, je ne sais pas leur stratégie de croissance, mais ce serait très intéressant de ce genre de choses-là, justement pour inciter une relève bien formée en sécurité dans laquelle on va pouvoir s'amuser avec ça. Et une dernière petite nouvelle pour terminer avec... Ah, oui, Vincent?
Je vais vous envoyer un article intéressant qui a été publié hier. Le président de la Banque nationale canadienne puis le président de Desjardins.
Cyberéco.
Oui, viennent de s'allier justement avec un premier investissement assez massif de la part de Desjardins. La Banque nationale, on ne sait pas encore, mais pour justement faire la promotion du cyber, en fait, pour partage de connaissances. Je ne sais pas trop comment ça va prendre forme, mais je trouve l'initiative.
J'ai assisté au lancement à Québec de Cyberéco par Desjardins et Banque nationale. Oui, c'est une initiative qui est merveilleuse. Il y a des moyens financiers qui sont donnés, puis Desjardins avait nommé la quantité d'argent qu'il avait mis sur un horizon de 3 ans, puis c'est quand même un montant significatif. C'est pas juste 50 cents. Là. Fait que dans ce cas-ci, ils ont mis les moyens financiers et humains parce qu'il y a aussi un certain nombre d'exigences de collaboration des employés de Desjardins à cette initiative-là qui est justement pour aider à lever des projets. Donc oui, on a eu ça. Banque nationale est un partenaire majeur, puis il y a d'autres partenaires un peu moins importants qui, à ce stade-ci, ont déjà annoncé leur initiative. Fait que oui, je vais faire un lien avec dans le show note avec ce que tu m'as envoyé, Vincent, puis oui. Faudrait faire quelque chose comme ça. J'ai des amis qui sont plus proches de cette initiative-là, puis ça vaudrait peut-être la peine de faire un épisode spécial juste sur cette initiative-là, parce que là, il y a des sous, et on parle de millions de dollars, là, on parle pas genre de 5 000 dollars, c'est qu'ils mettent des millions de dollars réels dans un projet puis qui n'est qu'au Québec. Fait que pour l'envergure de la province, cette quantité d'argent-là va vraiment faire bouger les choses de façon très intéressante, puis les grands joueurs de l'industrie ici ont décidé de vraiment s'allier à ça. Moi, à travers mes initiatives, j'essaie d'amener Québec numérique dans ce giron-là, justement, pour que tout le monde puisse bénéficier, puis qu'on ait une vie plus sécuritaire, du moins au Québec. Ça n'a pas des effets, des incidences sur le restant du monde. Et on va terminer avec une dernière nouvelle, celle de Damien sur le RGPD, parce qu'il faut pas le choix, RGPD. Non, je pense que Damien est en train de me dire que non, ça ne lui tente pas de parler de RGPD.
Si, 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 il n'y a aucun problème. Vu que du RGPD, il y en a partout. Et non, non, plus sérieusement, c'est un excellent livre qui vient de sortir, qui s'appelle RGPD et droit des données personnelles. C'est de Fabrice Matatia. C'est un auteur qui est particulièrement connu parce qu'il a sorti pas mal de bouquins déjà autour des internets. Donc, il s'y connaît véritablement. Il n'est pas né non plus de la dernière pluie. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé pour des ministères. D'ailleurs, je crois même qu'il continue à travailler pour un ministère en France. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un véritable manuel très complet. Dédié au RGPD. Et il s'adresse véritablement à tout le monde, aussi bien chez nous en France, en Europe, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, parce que ça permet justement de se mettre en parallèle avec, si jamais il y a un problème de sécurité ou de fuite dans la contrée de mes cousins du Grand Nord, eh bien ça va permettre de pouvoir réagir, et puis surtout comment agir face à la justice, face au droit, et face à une potentielle plainte. C'est un livre qui est chez les éditions, que je ne me trompe pas, Erol. Oui, voilà, ça y est, je l'ai juste devant mon nez pourtant, mais je suis avec du monsieur maintenant, je ne sais plus lire. Non, non, voilà, c'est RGPD et droit des données personnelles. Voilà, je considère que c'est vraiment, ça va devenir une bible. En tout cas, il faut franchement l'avoir sur son bureau si vous êtes DPO, si vous êtes même tout simplement intéressé par le sujet. Parce que comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi et autant l'avoir de notre côté.
Ouais, puis cette loi-là, on est mieux de ne pas l'ignorer parce qu'elle a des dents qui sont assez pointues. Et Damien nous montre le fameux livre en question. Fait que ça fait le tour de nos nouvelles pour cette semaine. C'était très chargé, on avait vraiment chose, puis on a dû même en retrancher qui était en plus. Fait que sur ce, messieurs, je vous souhaite une excellente semaine.
Bisous à tout le monde, on se dit dans 15 jours.
Oui.
Ciao, ciao.
Salut les dudes. Warning, armor breach detected. Warning, phazon contamination present. Warning, phazon corruption has begun.
As we go.